vendredi 4 mars. Bienvenue au show du matin. Sylvain Saint-Don, re-bienvenue.
Bon matin, Jeff.
Comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Ben oui. Grosse semaine. Aujourd'hui, en fait, on avait la semaine passée, grosse discussion. Moi, j'en ai entendu parler beaucoup. Ça a été un sujet qui a été, j'ai pas le mot, mais qui a fait jaser, là. Qui a attiré les opinions, bien intéressant. Comme quand tu passes à chaque fois, moi, Sylvain.
Merci, Jeff.
On a parlé justement pendant ce podcast-là des coupures dans le A, dans le 2 ans, dans le 2A. On va en parler plus tard.
Oui, définitivement.
Donc, ça va venir, plus la saison va approcher. Donc, on va en reparler. Mais ce matin, tu voulais me parler, c'est un sujet que je connais pas tant. Je vais en apprendre encore une fois ce matin. La journée débute, hein, fait que c'est sûr qu'on apprend toujours quelque chose dans une journée, puis c'est toi qui vas me l'apprendre ce matin. Les traveling teams. Donc, oui. Tu voulais nous parler de ça. Puis à partir de là, je vais te laisser aller, puis je vais poser mes questions au fur et à mesure, puis j'invite les gens à poser leurs questions, parce que là, présentement, pour moi, tu m'apprends tout présentement. Là, pour les okay. Traveling teams, fait que je te laisse aller.
Ouais, c'est un phénomène qu'on parle beaucoup en fédération sportive, surtout dans les sports d'équipe, où ce qu'on assiste à un certain phénomène que les personnes décident d'organiser ce qu'on appelle un traveling team, où ce qu'ils vont prendre un groupe de jeunes athlètes, peu importe leur provenance, vont former un genre vont former un club et ils vont aller jouer dans différents tournois, différents événements, sans appartenir nécessairement à une ligue. Et ces initiatives-là, dans beaucoup de fédérations, ça vient un peu à l'encontre de notre plan de développement un petit peu. C'est pas nécessairement encadré. Et on a beaucoup de questions qui viennent de nos membres de la Fédé dire, comme fédération, est-ce que vous empêchez ça? Pourquoi vous faites ça? Etc. C'est quoi le but? Puis là, je voulais un petit peu démêler ça. Ben, premièrement, Jeff, il faut situer c'est quoi le rôle d'une fédération? Parce que le sport au Québec est régi par les fédérations et non pas les clubs sportifs. Donc, on appartient au ministère de l'Éducation, on appartient au secteur de l'éducation, mais au ministère de l'Éducation, effectivement. Et on a des comptes à rendre. Le mandat du ministère, c'est de donner au FEDE le devoir de développer la pratique sportive, autant récréatif que compétitif en passant, puis d'encadrer ça dans une espèce de sphère où ce que le respect de l'individu va être là, la pratique sportive va être sécuritaire, les chances de développement sont présents, etc. Donc, on a des comptes à rendre comme fédération à l'organisme qui s'appelle le ministère de l'Éducation. Donc, c'est le premier volet comme tel à bien saisir notre rôle d'une fédé. Quand tu vas regarder sur notre mission, ben en plus d'être responsable de créer un environnement favorable, ben on doit voir aussi toutes les variables entre entraînement et compétition, puis comment ça se place, etc., dans toute notre structure. Donc, on a tout ça en tenant compte comme fédé. Tandis qu'une équipe qui gère un traveling team ou ce que ces équipes voyageuses, en guillemets, ben eux n'ont pas nécessairement de compte à rendre. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a une belle liberté, puis tout est beau. Donc, c'est beaucoup plus simple à organiser, puis il n'y a pas de contraintes comme telles. Puis contraintes, il faut comprendre que nous, on doit aussi avoir des entraîneurs qui sont certifiés, qui doivent répondre à des critères. On doit avoir une structure, comme je disais tantôt, qui offre la sécurité, etc. Donc, c'est ça qui amène un petit peu le fait d'avoir une fédé où ce que on est quand même un monopole, Jeff, là, on va se le dire. Donc, les monopoles, des fois, ça peut être correct. Hydro-Québec, je pense que c'est un monopole très intéressant qu'on paie l'électricité le moins cher en Amérique. Donc, je trouve ça, c'est le fun.
Ouais, ouais.
Mais un monopole peut aussi emmener de la paresse à l'intérieur de la structure, puis pas peut-être développer autant qu'on pourrait, même si on a comme vraiment des comptes à rendre au ministère. Il faut remettre un plan de développement à tous les 8 ans, etc. Donc, on est dans ce créneau-là, là, entre ce qu'on a comme mission à fédération versus les équipes qui voyagent, qui prennent des équipes indépendantes, comme on dit. Là. C'est un peu la sphère qu'on a entre les deux.
Donc, je peux voir pourquoi ça peut être un problème, je vais le mettre en guillemets, pour la fédération, mais ça peut aussi, comme tu l'as dit, le côté monopole de la chose de Baseball Québec, ça peut amener dans certaines régions ou même pour nous au provincial de dire « Hey, eux autres, ils font ça de bien, ils sont en train de nous botter le cul dans telle région, faut être meilleur.
Ben, le mot-clé, c'est devenir meilleur. Si quelqu'un offre un programme comme ça, puis, tu sais, je parle du baseball, puis le hockey, on vit les mêmes choses, puis il y a d'autres sports aussi, ça y a fini à l'entour. Mais, tu sais, c'est à nous de développer une pratique meilleure que notre client baseballeur est libre de faire ce qu'il veut, puis d'aller dans quelle direction qu'il veut aussi. Tu sais, faut pas, c'est pas, si on préfère d'aller. Si un joueur décide de jouer au soccer puis au baseball l'été, d'aucune façon, nous, on peut dire non, t'as pas le droit de jouer au soccer. C'est pas comme un jeune pourrait aussi jouer à l'intérieur de la structure puis aller peut-être dans une équipe dans ce genre-là qui voyage, etc. Tu sais, c'est là la tendance qui est un petit peu compliquée, mais il faut juste que les gens comprennent que la fédération n'a pas d'impact. Sur ces équipes-là, et on n'a pas à avoir d'impact, et ils ne sont pas non plus encadrés par la fédération, puisqu'ils sont comme à l'extérieur des rouages de la Fédé.
Même si ces équipes-là ne sont pas encadrées par la Fédé, est-ce qu'il y a moyen à l'avenir, dans un futur peut-être proche, moyen, à long terme, de travailler ensemble puis de peut-être collaborer pour. Parce qu'au final, on fait tout ça pour le bien des athlètes.
Ben, je te dirais qu'on ébauche nous-mêmes un peu cette option-là. Tu regardes au niveau de l'ABC, ben, on part un coup que la Ligue estivale est en route, là, au mois de mai, le mois de juin, pendant les semaines d'école. On est en mode de compétition un contre l'autre, de compétitionner un contre l'autre plutôt. Et dès que l'école se termine, ben, on s'en va vers le marché américain et on se transforme en traveling team.
Exact.
Donc, on est un peu ça. Écoute, c'est une formule qu'on va utiliser aussi avec l'équipe de Gatineau dans le 17U3A, où cette année, ils vont jouer à l'intérieur de notre ligue 17U3A des parties de calendrier régulier. Mais ils vont aussi avoir des voyages à Sudbury et un voyage aux États-Unis de prévu. Donc, il y a une mode hybride un peu entre les deux parce que le côté très difficile des fameuses équipes qui voyagent comme ça, qui participent à plein de tournois, c'est d'avoir assez de matchs pour permettre la performance parce que chacun des tournois, t'es pas sûr de te rendre jusqu'au bout, Jeff. C'est le problème. Et puis, en même temps, l'autre problème, si tu veux te rendre le plus loin possible puis jouer 6 parties au lieu de 3 dans un tournoi, ben, faut que tu gagnes des matchs. Donc, si tu gagnes des matchs, t'es confronté souvent à faire jouer tes meilleurs. Donc, ceux qui sont un peu moins habiles, t'as pas la même patience pour les développer, puis t'as pas la même capacité de dire de mettre un lanceur puis de dire OK, il a donné 2-3 buts sur balle, il va se reprendre, on vient de faire une correction, tout ça. Ben non, il y a 4 points plus tard, on sait plus le temps. Là. Dans une saison régulière, tu peux te permettre un peu de jouer avec ces variables-là, puis de dire bon, je mets JF au monticule, il est ordinaire, je prépare un autre lanceur d'avance, correct, je veux développer JF et donner des manches. C'est là que ça devient beaucoup plus difficile pour ces équipes-là qui sont condamnées presque à toujours gagner. Donc, c'est le gros enjeu.
C'est un peu le commentaire de Christian Cyr, justement, qui, je vais te le lire rapidement, là, mais c'est important de considérer les structures de développement à long terme. On travaille très fort pour augmenter le ratio pratique-partie. Les traveling teams sont basés sur une structure de participation à des tournois. Donc, c'est un peu ce que tu viens d'expliquer.
Oui, c'est ça. Oui, et puis, tu sais, un des gros problèmes que vivent les Américains présentement, il faut comprendre la structure de baseball. Ben, la structure de sport aux États-Unis appartient aux écoles. Donc, le côté estival, 3-4 mois pas d'école durant l'été, c'est organisé des différentes ligues maison, etc. C'est pas nécessairement encadré d'une place à l'autre aux États-Unis, d'un État à l'autre. Je pense qu'il doit y avoir 100 ligues différentes, des appellations différentes. Les distances sont pas pareilles pour des groupes d'âge d'un État à l'autre. C'est un peu un melt-pot d'un peu de tout là-bas, tu sais. Et ça commence à être très populaire. Les équipes voyageuses comme ça pour prendre des kits de 11 ans et moins, 9 ans et moins, aller faire des tournois, vendre aux parents qu'ils vont se faire voir, puis etc. C'est là que le danger provient plus que quand on promet des choses qui sont vraiment inexistantes. Tu sais, on vient de refaire toute notre réforme du haut niveau, tout notre plan de développement, on vient de le refaire là, récemment, qu'on en parle depuis quelques mois. Puis tu sais, on n'adresse rien en bas de 12 ans parce que le physique de ces athlètes-là est pas encore développé, puis on n'a aucune piste qu'on va atteindre le niveau supérieur. Donc, les parents font des sacrifices de se lever à 4 heures du matin pour aller faire 3 heures de route, pour participer à un tournoi, puis c'est très c'est très sneaky aussi, ces tournois-là, parce que souvent, le membership qu'on va payer, on se dit, bon, ben OK, on paie tel montant, ça coûte cher, mais c'est correct, on a bien des tournois, tout ça. Mais après ça, les parents, les retours qu'on a de certains parents, c'est oui, mais il faut payer les chambres d'hôtel après. C'est nous autres qui voyagent les kids. Faut payer telle chose, telle inscription, tel tournoi. Quand tu rajoutes tout ça, ça fait en sorte que le prix, il explose vraiment. Donc, aux États-Unis, présentement, il y a beaucoup d'États qui commencent à légiférer là-dessus, puis d'être capable de surveiller ça, parce que des familles qui font des sacrifices d'argent puis de temps pour un enfant qui a 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est comme, non, c'est pas le temps de faire ça. Plus tard, peut-être qu'on va être obligé de sacrifier temps et argent pour que notre kid accède à des niveaux supérieurs. Puis là, ça va être le temps de mettre ça en place. Mais quand pour les trop jeunes, c'est une note de service qui n'a aucun sens.
Ouais. Puis est-ce que...
Jeff, quand...
Vas-y.
Oui, excuse. Non, ben, tu sais qu'on parlait aussi d'un monopole d'une fédé. Puis sérieusement, ça peut encourager les fédés à être paresseux puis tout ça. Puis là, je te dirais que l'environnement... Un, comme directeur technique, j'étais un éternel insatisfait. Je veux toujours qu'on offre un meilleur produit année après année. Puis j'ai la chance de travailler avec des coachs par études, avec des présidents de région, des associations, avec un conseil d'administration qui est assez formidable à vouloir devenir meilleur, puis dire non, on a un produit qui est le fun là, mais on veut vraiment, puis j'ai toujours cette image-là que dans 5 ans, on se regarde et on se dise « Hey, c'était bien cute, qu'est-ce qu'on faisait en 2022, là? C'était mignon. » On veut devenir vraiment meilleur. Fait que on a vraiment une belle gang là, à l'intérieur de toute notre structure, comme que ce soit nos professionnels dans le coaching des sports études, comme je disais, qu'on a une volonté d'être les meilleurs puis de se démarquer. Fait que ça, je pense qu'on a une belle. On n'est pas à l'abri d'une paresse intellectuelle, Jeff, là, comme tous les organismes, il faut faire attention. Mais on est définitivement entouré de personnes qui poussent vraiment dans la bonne direction. Puis, regarde, j'en profite pour remercier tous ces gens-là là, qui sont des contribuables incroyables au succès de la fédération.
Tout à fait. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes au Québec? Est-ce que ça vient nuire à beaucoup de régions ou est-ce qu'il y a des régions qui sont plus touchées au Québec par
le meeting? Ça reste sporadique. Je pense que la plupart des gens sont confortables avec le service qui est offert par la fédération. Ça reste cher aussi. Ça reste cher également. Est-ce que ça convient à certaines personnes qui sont peut-être pas satisfaites du service qu'on a? Puis ça, c'est très légitime. C'est très légitime aux gens, puis ça leur appartient au final, etc. Ça peut se promener d'une région. C'est sûr que les régions plus près de l'Ontario et plus près des États-Unis vont être plus... tu sais, je pense pas que Saguenay ait une grosse concurrence en... Ils ont déjà le Flaming Team là, à 2 heures de route pour aller jouer du baseball à l'extérieur de la région, tu sais. Donc, c'est sûr que c'est plus limitrophe aux frontières québécoises, là, c'est sûr et certain.
OK. Puis j'ai envie, parce qu'on parle depuis tantôt, j'ai vraiment... Moi, j'aime beaucoup l'idée, puis tu sais, tu l'as mentionné tantôt, tu veux tout le temps t'améliorer, t'en veux tout le temps en plus, c'est jamais assez, puis tu veux tout le temps trouver cute ce qui s'est fait avant. Est-ce qu'il y a certaines régions, puis je veux pas que tu nommes de régions, c'est pas ça le point, mais est-ce qu'il y a des régions qui doivent se regarder un peu plus dans le miroir puis dire, hey, tu sais, oui, tu sais, pas toujours se fier à Baseball Québec provincial, pas toujours se fier aux gens qui viennent dans leur cours puis juste se dire, hey, nous autres, on est capable de donner un meilleur produit puis on va être les meilleurs puis on s'en fout du reste. Ou c'est vraiment pas un problème puis tout le monde est quand même bien.
Oui, ben écoute, je te dirais que nos régions se compétitionnent un petit peu entre elles. Eux aussi, ils ont un goût d'être cités comme l'exemple à suivre, etc. Donc, ça amène à chacune de ces régions-là à se dépasser un petit peu dans tout ce qu'ils peuvent offrir. Puis ça reste ça, tu sais, ça reste que plus qu'on va avoir. Écoute, un plus bel exemple que je pourrais te donner, Jeff, c'est nos ligues d'automne. La pratique de l'automne est très. Tu sais, on parlait souvent que septembre est. C'est notre troisième plus beau mois de l'année là, en termes de température, chaleur et nombre de journées de pluie. Et le mois de septembre, il faut que ce soit rentabilisé beaucoup plus. On en parlera ultérieurement avec d'autres projets qui s'en viennent pour ce mois-là. Mais évidemment, c'est le début de l'école, etc. Mais nos ligues d'automne sont très puissantes. Ils s'organisent bien. Puis c'est pas quelque chose... Puis ça fait quelques années, comme Fédé, on se dit, écoute, on embarque-tu là-dedans? Est-ce qu'on offre un service comme détaché ou on sort de l'automne pour préparer 2023? ça peut être une idée intéressante. Puis on en parle beaucoup avec nos programmes de sport-études aussi qui sont déjà impliqués à l'automne.
Mm-hmm.
Puis à quelque part, on recule en disant nos gens qui ont pris l'initiative de promouvoir ces options-là pour les jeunes qui vont pas nécessairement walker ou d'autres pratiques sportives ou qui veulent continuer, ils commencent à être bons, ils commencent à se développer, ils commencent à être moteurs, ils commencent à avoir du fun, la saison finie. Ça fait 4 mois. Ils veulent profiter de septembre pour continuer à progresser. Ben, on regarde ce qui est fait, puis on trouve ça séduisant. Là. On trouve ça le fun que nos bénévoles, nos personnes d'organisation, d'association lèvent la main et disent « Moi, je pars quelque chose à l'automne, je m'organise. » Puis cette espèce de... T'as un très bon point, Jeff. C'est dans cette espèce d'engouement que les personnes vont vouloir développer eux-mêmes, il faut pas freiner ça. Il faut être capable de contribuer à ça, permettre que ça accélère, permettre peut-être d'encadrer ces gens-là pour rendre encore la pratique encore plus de fun puis toucher plus de jeunes. Ça peut être bien intéressant.
Oui. J'y vais avec un commentaire encore de Christian. Je vais en défiler parce qu'il y a bien des commentaires aujourd'hui. Merci tout le monde d'être là. Christian qui dit « Défi réel dans le 2A, il appartient aux organisations de faire en sorte que les familles et l'athlète choisissent une formule ou une autre, un « commitment ». Donc, ils doivent se commettre, entre autres. C'est ce que je veux dire.
Ben, ça fait partie. Tu sais, la structure de A, présentement, on est en réforme de ça. On a fait des comités de travail, etc. Donc, on va arriver avec une offre de A qui va être un peu plus meilleure, qui va être plus efficace pour nos familles puis nos athlètes, etc. Donc, on est dans ce cheminement-là présentement. Puis évidemment, là, c'est une collaboration de tout le monde, puis c'est trouver les meilleures options possibles là, à l'intérieur de ça. Donc, c'est sûr que la structure A, il faut améliorer tous les niveaux. Là. On en parlait, là, on a 35 000 membres à Baseball Québec. Plus notre pratique sportive va être le fun, bien, plus qu'on va avoir des membres, puis plus que la pyramide est large en bas, ça répond à tous les sports, au niveau mathématique, on va avoir de plus en plus de super athlètes, puis de plus en plus de clients satisfaits.
Tout à fait. J'y vais avec un autre commentaire, Michael Breyer, qui est un auditeur qui est là à chaque fois. Ça reste beaucoup de baseball par contre, les sports études toute l'année, baseball d'été, et on recommence sports études, baseball d'automne en même temps. Ça laisse pas beaucoup de place à la périodisation et repos de bras. Donc, ça, il y a une offre de service qui est énorme, qui est à l'année. De ce que j'en comprends, c'est qu'à un moment donné, ça reste aux parents et aux joueurs de décider c'est quoi qui est meilleur pour leurs joueurs. Hein, j'imagine, c'est nous, on offre un service, mais ça se peut qu'il y ait d'autres services qui peuvent être parallèles à ça.
T'es pas obligé de les prendre, premièrement.
Non, c'est ça.
Nous, c'est vraiment d'offrir tous les services. Mais je sais pas si son énoncé, il y a une sous-question dedans, mais le principe d'être prudent quand même dans l'offre annuelle. Tu sais, on dit souvent que faire le même sport 12 mois par année, c'est pas nécessairement santé. Ben, faut faire très attention de, tu sais, on a une variante très différente au baseball, c'est que le fait que la compétition durant l'été se fait d'une certaine façon. Puis à partir de octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, on fait encore du baseball, mais dans d'autres items. Puis on tente à l'intérieur d'une structure d'avoir 50% du volume d'entraînement qui est dédié au développement de l'athlète, soit par de la musculation, soit par de l'agilité, coordination, pour d'autres variables là-dedans. Puis on a des kids qui jouent aussi dans d'autres sports, qui continuent à faire du hockey, peut-être des fois plus récréatifs, etc. Là. Un mot, Jeff, aussi sur les 12 teams qui peut avoir aux États-Unis. Puis je pense à quelque part, là, c'est qu'il y a des personnes des fois qui sont sollicitées, etc. Il faut se poser aussi la question que pourquoi une équipe de la Floride, OK, qui a le plus gros bassin de population de joueurs de baseball, veut recruter un joueur à 2600 km de chez eux? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez reconnu, on ne trouve pas quelqu'un dans sa cour, les gens connaissent. Cette formation-là, puis ils ne donnent pas confiance. Pourquoi on est obligé d'aller recruter si loin? Ça, c'est le genre d'affaires que, puisqu'on fait poser des questions par des parents qui disent tu légites comme un, on les connaît pas, donc on sait pas si le traveling team à BC, en Alberta, en Saskatchewan, au Dakota du Nord, en Floride, on n'a aucune expertise avec eux, on n'a aucun échange, puis c'est peut-être des personnes très compétentes, etc. Mais au final, c'est de savoir que si, puis là, j'ai mon exemple de la Floride qui est marquant, c'est le plus gros bassin de population de joueurs de baseball au monde, au prorata, qui est là à côté de chez toi, puis tu t'en vas repêcher un kid à 3000 km de chez vous. C'est comme, à un moment donné, il faut aussi que les parents se méfient de qu'est-ce qui peut être raconté, qu'est-ce qui peut être vendu, puis qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant pour dire « Wow, mon fils, il est tellement exceptionnel qu'il y a un programme de la Floride qui s'intéresse à lui. » Ça se peut qu'il s'intéresse à lui, ça se peut qu'il s'intéresse aussi au membership puis à l'argent qu'il va te porter. Puis ça reste correct aussi là, si le parent évalue que ça me coûte 15 000 pour l'année, mais j'ai ça comme service qui me plaît. Qui on est, nous, pour dire non, c'est pas un bon choix. Il faut respecter ça. Mais c'est juste que si on te promet d'apparaître dans telle équipe, pour te donner une visibilité pour des collèges américains ou pour tel événement ou que les coachs, les Major League Baseball vont te repêcher si tu viens avec nous, ben là on est plus dans de la fabulation, on est plus dans la vente sous pression, en guillemets. Là. Et c'est là que nous, comme Fédé, on peut juste armer nos parents, nos familles en disant non, ça, c'est de la bullshit, ça se peut pas, là. On peut pas. Tu peux pas arriver et dire OK, t'es sûr d'être pris dans un division 1, dans un D1 d'un collège d'université américaine qui coûte 50 000 par année, puis ils vont te donner un scholarship à 16 ans ou à 17 ans, là, c'est pas vrai, là.
Non, mais je veux que tu continues un peu sur ça, sur le côté parent, parce que tu as quand même ce rôle-là à la Fédé de discuter beaucoup avec les parents, que ce soit dans les sports études, justement avec les parents de l'ABC et tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire aux parents ou un peu, hey, mon enfant a eu une demande pour aller en Floride. C'est quoi la façon de procéder pour un parent? Parce qu'il y a un côté privé, il y a un côté cash là-dedans. C'est sûr que quelqu'un, peut-être, peu importe où, là, on parle de Floride, ça peut être ailleurs, mais il va dire, hey, viens-t'en, moi, je vais t'aider, mais ça coûte 20 000, tandis que l'ABC, ça coûte 11 000 ou 10 000, ou je ne sais pas trop c'est quoi le prix exactement. Mais il y a un côté privé, il y a un côté business qui fait que ça se peut que tu veuilles aller chercher des joueurs un peu partout pour augmenter ton cash flow. Puis,
ben oui,
mais il y a un processus avec les parents aussi. Il faut que les parents nous fassent confiance aussi quand on dit des choses. Puis ils ont peut-être super confiance en la personne qui est ailleurs dans l'autre collège ou l'autre endroit là, qui veut les attirer.
Ben, définitivement. Premièrement, au niveau de l'argent, c'est toujours une question d'argent versus les services que j'entends. Tu parlais de l'ABC. En 2020, au moment de la pandémie, on avait évalué au mois de janvier qu'on offrait 13 800 $ en service à nos athlètes. Donc, c'était le vrai prix qu'ils devaient payer à ce moment-là. Donc, c'est encore plus cher présentement. Puis, grâce aux subventions qu'on a, parce qu'on a des coachs qualifiés qui répondent à des critères, on a des subventions au niveau du ministère de l'Éducation, on a des subventions par rapport à des installations, notre gestion, etc. Donc, grâce à tout ça, on était capable de descendre un prix en bas de 10 000 $ pour l'été au complet, qui était le programme le moins cher si on compare avec nos confrères de l'Ontario qui ont des programmes similaires à nous. Il y en a 3-4 en Ontario qui sont à 15 000 $ etc. Donc, on avait quand même une offre de prix très intéressante dans la structure. Puis c'est sûr que le prix devient aussi un enjeu puis pour les familles. Donc, c'est super important de... Moi, ça reste aussi, Jeff, qu'est-ce que tu as en retour pour qu'est-ce que tu paies? Si ça se satisfait comme service développement, mais c'est sûr que la personne qui occupe ce genre de business-là, ben, est là pour faire de l'argent. Puis, tu sais, au final, nous, comme fédération, que Jean-François décide de partir d'aller à l'ABC ou d'aller dans un traveling team, ben, ça change rien à mon salaire. Je suis pas touché, moi, personnellement, là. Puis c'est une bonne nouvelle, puis je suis content, puis je suis pas touché. Mais il faut que les gens comprennent que nous, on est dans notre mission, c'est le développement de nos kids. C'est pas de gagner un championnat, c'est pas d'arriver des médailles, c'est pas d'arriver avec... Ça change pas grand-chose au niveau de la fédération, c'est à part les Jeux du Canada, là, qui sont le seul événement, peut-être, aux 4 ans, qu'on a des subventions qui viennent du fédéral, etc., grâce à ça. Mais on n'a pas un gros impact dans la victoire-défaite. Ça veut dire que, comme parents, là, la fédération appartient à nos parents et à nos joueurs. Puis ça, c'est un message que je véhicule souvent. Puis si vous voulez prendre, avoir des, à vous faire conseiller, soyez pas gênés. Souvent, les personnes, les parents sont comme, ouais, mais là, je dirais pas, je le dirais pas à Fédé, je veux pas que mon gars soit bloqué. Mais non, il y a pas de blocage. On est là pour le développement du kid. Puis si vous pensez que c'est une meilleure option, voici la situation. Qu'est-ce que vous en dites? On a ça à proposer. Ça marche pas. Aller à droite, nous, on offrait d'aller à gauche. C'est aussi simple que ça, mais on veut, faut vraiment que les gens comprennent qu'on accompagne nos athlètes et nos familles dans le parcours baseball. Notre but comme fédération, c'est d'améliorer la pratique du baseball au Québec. Cette pratique-là peut être récréative, elle peut être compétitive, elle peut être pour le haut niveau, etc. Nous, notre job, c'est de créer des conditions gagnantes pour qu'on puisse passer à l'autre niveau. C'est pas de vous garder dans la structure nécessairement, mais c'est de vous renseigner puis faire en sorte que vous ayez le plus d'options possibles pour prendre une décision éclairée. Et par la suite, un coup, tu as tout entre les mains puis on dit, ben moi, je préfère aller dans cette direction-là avec à tel endroit. Ben bravo, bonne chance. Puis on souhaite que ça marche avec vous.
Oui, puis je trouve ça important ce que tu dis parce que justement, c'est sûr qu'il y a des parents qui ont peut-être peur de poser des questions, puis on ne devrait pas parce que si eux ont une décision à prendre ou leurs jeunes ont une décision à prendre où ils vont évoluer, bien, s'il y a bien une personne à qui on peut demander, Sylvain, c'est un gars comme toi qui, à chaque année, à chaque jour, tu parles à beaucoup de parents depuis plusieurs années, tu as vu plusieurs scénarios, tu as vu plusieurs. Tu n'as pas juste eu des bons conseils, tu as eu des. Tu sais, des fois, tu as peut-être pensé quelque chose était bon et finalement, ça n'a pas marché. Tu sais, tu as de l'expérience dans ce milieu-là. Alors, si un parent a une question, ben d'aller te voir et d'avoir une opinion de quelqu'un qui a l'expérience depuis plusieurs années, de conseiller des jeunes, de conseiller des parents, je pense que c'est la moindre des choses.
C'est vraiment de changer la mentalité, de penser que nos athlètes et nos parents sont à notre service, mais c'est non, c'est pas ça. C'est vraiment, c'est votre fédération, c'est la fédération qui est au service de nos athlètes et de nos parents. C'est grâce à vous qu'on est là, donc il ne faut pas se gêner pour aller chercher de l'information aux bons endroits. Et par la suite, bien évidemment, comme j'ai dit tantôt, votre choix vous appartient, puis il n'y a aucun problème, puis on vous aime quand même. Il n'y a pas de problème. Là.
Excellent. Ben,
écoute, d'ailleurs on s'en compte du temps?
Oui, il reste une minute.
Je suis l'expert à déborder. D'ailleurs, tu sais, le côté le fun de Traveling Team, c'est le côté d'avoir des compétitions puis d'avoir des événements, des tournois. Je demande à n'importe quel parent qui nous écoute ou qui va nous écouter un peu plus tard d'assister à un tournoi, d'avoir une ambiance de tournoi, et puis surtout que après 2 ans de confinement, on s'entend-tu que ça va être le fun des tournois cette année? Là. Donc, ça, c'est sûr que c'est un happening qui est très, très cool. Là. C'est aussi l'endroit qu'on voit toutes les chicanes. Qu'on voit qu'à la fin d'un tournoi, un kid n'a pas joué, les parents sont frustrés. La bisbille, elle se passe là, mais à cause qu'il y a de l'émotion puis de ça, puis c'est un peu pour ça qu'on joue. Et c'est une des raisons qu'on a commencé à changer notre approche un peu, Jeff, en essayant de développer 2 scénarios dans tout notre contexte de A. Un scénario où ce que développement, où ce qu'on parle la période de l'école, où ce que là, on met l'accent sur des matchs à proximité, moins de voyagement pour les parents, où ce que le contexte de développement est vraiment mis de l'avant. Et quand l'école se termine, on a notre saison de tournois, de compétition, d'événements, où ce que là, on est plus dans le mode, OK, là, faut commencer à gagner puis avoir un peu plus d'émotion puis tout ça. Puis on a moins de games de saison où ce que là, on parle, bon, on a eu 6 semaines de développement, là, il est temps qu'on joue dans des tournois, des événements le fun, puis de dire « Wow, là, on est en mode tournoi un peu plus. » Donc, on est un petit peu dans cette sphère-là pour répondre un peu justement aux besoins de compétitionner. Mais ça reste que, puis tous les coachs qui nous écoutent présentement vont nous dire « En tournoi, ça peut être bien le fun, tout ça, mais la gestion des 11 athlètes de notre équipe, des 12 athlètes de notre équipe, c'est toujours un côté pas trop le fun. C'est plus dur, là. »
C'est clair.
Et l'hockey vit la même chose. Là. Le soccer vit la même chose aussi.
Pas... Ouais, tous les sports, je pense. Là.
Tous les sports vivent ça.
On peut les nommer un par un.
En tournoi, parce que là, c'est le but, c'est de gagner, puis tous les parents sont d'accord, puis à un moment donné, ben c'est sûr que quand ça fait 2 parties en ligne que mon kid ne joue pas,
C'est sûr que c'est pas facile. Non. Sylvain, un gros merci pour ça. Je t'invite à peut-être aller commenter ou répondre aux gens, parce qu'il y a plusieurs commentaires aujourd'hui. Je remercie les gens qui sont là ce matin, là, ben du monde, comme je dis, beaucoup de commentaires. Merci pour la belle semaine, tout le monde, ceux qui ont été présents toute la semaine. Sylvain, merci pour ta présence encore. Encore une fois, tu scores, Sylvain, tu scores solide ce matin. Bien content, fait qu'on se revoit la semaine prochaine.
Right.
Je ne sais pas avec quel sujet, mais on va revenir avec un sujet. Ouais.
OK, all right.
Hey, merci Sylvain, merci tout le monde. Salut, bon week-end.
Bye-bye, Jeff.
Membre de la famille H2O Web Media.